Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit : Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Abraham dit encore : Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham : Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis il le fit sortir et lui dit : Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et il déclara : Telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur.
Grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ce qu'il a fait, chantez, faites jouer pour lui, redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça pour la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisi. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole dictée pour mes générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge,
fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le Fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole : C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur.
À bien de reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils.
Alléluia, 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 Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras. Et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnait de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi-même, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.
Acclamons la parole de Dieu.
En ce dimanche qui se situe dans l'octave de Noël, l'Église présente à notre vénération la Sainte Famille de Nazareth, Jésus, Marie et Joseph. Elle nous la présente comme un modèle et aussi comme une grâce. Hein ? Dieu a voulu naître dans une famille. Quel honneur, quelle gloire, hein ? Pour chacune de nos familles. Alors dans ce temps de Noël, il ne faut pas faire très attention à la chronologie des fêtes et des lectures. Tout est mélangé, parce que c'est pas là le propre du liturgiste. Hein. Voilà, on a fêté il y a quelques jours déjà les Saints Innocents. On fêtera les Rois Mages après, la semaine prochaine. Et puis aujourd'hui, on nous présente la présentation de Jésus au Temple qui aura lieu 40 jours après Noël, le 2 février. Le but de la liturgie, c'est aujourd'hui de nous présenter une scène de la vie de la Sainte Famille. Alors essayons d'y puiser quelques forces pour nos familles à nous, dont elle est le modèle et dont elle est d'une certaine façon la Sainte Patronne. D'abord, nous voyons dans cet épisode qui nous est relaté aujourd'hui que Joseph, Marie et l'enfant Jésus, c'est une famille pieuse. Hein, ils vont au temple de Jérusalem, ils vont suivre la loi de Moïse. Mais, tout en étant dans l'obéissance, ils lui donnent un sens nouveau. Parce que bien sûr, Marie n'a pas besoin de purification. Hein, et ils viennent quand même offrir les deux petites colombes, hein, qui étaient le sacrifice prescrit pour les familles pauvres. Et puis, surtout, ils viennent présenter leur enfant au Seigneur. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Dans la loi de Moïse, il était plutôt question de racheter les premiers-nés. Car, comme il est dit, les premiers-nés appartiennent au Seigneur. Hein, en souvenir de cette nuit de la Pâque où tous les premiers-nés d'Égypte, hein, des hommes comme des animaux, étaient morts, hein, sauf ceux des Hébreux, mais voilà, qu'il fallait racheter pour les ramener dans la vie ordinaire. Et là, bien sûr, pour Jésus, pas question de le ramener, entre guillemets, dans la vie ordinaire, mais au contraire de le présenter au Seigneur. Alors nous voyons aussi Marie et Joseph, hein, qui s'étonnent des paroles qui sont dites sur Jésus. Essayons de garder dans nos familles, hein, cette capacité d'étonnement, d'émerveillement. Hein. Oh, je ne dis pas que les enfants ne font pas des bêtises et ne disent pas beaucoup de bêtises, mais je dis que des fois, Dieu parle par la bouche des enfants. Hein. Et n'ayons pas peur d'être étonnés de ce que disent nos enfants, d'être dépassés. Hein. Et cela peut des fois aller, quand ils grandissent, hein, jusqu'à la contradiction. Hein. Les adolescents et les adolescentes ont l'art, hein, d'avoir bien reçu ce qu'on leur a enseigné pour nous le renvoyer à la figure en nous montrant que ce n'est pas ce que nous vivons. Hein. Et là aussi, c'est une grâce à accueillir, c'est l'école de la famille, l'école de l'humilité, l'école de la vérité. Et puis la famille peut aussi des fois devenir l'école d'une grande souffrance. Un glaive te transpercera le cœur. Hein. Marie a connu cela, mais bien des parents le connaissent aussi. Je me rappelle de cette famille, je crois, il devait y avoir 3 enfants, 3, 4. Famille, les parents très chrétiens. Et puis, voilà, la dernière fille vraiment tournait mal. À 20 ans, j'allais dire, il ne la reconnaissait plus. Et elle menait une vie complètement en dehors de ce qu'il leur avait enseigné. Et je les vois encore tous les jours. Ils étaient là à la messe le soir au premier rang, main dans la main, pour prier pour leur fille. La famille, c'est cela aussi. Et puis, il y a Siméon et Anne, les vieillards. Les vieillards qui sont proches du Seigneur et qui ont la sagesse. Le pape François nous rappelle toujours l'importance de garder le lien avec les personnes âgées de la famille. Il y a souvent un lien spécial entre les grands-parents et les petits-enfants. Et que ce lien serve justement à transmettre la sagesse, à transmettre le sens de la vie. Voilà qui est important aussi. Dans les premières lectures de cette messe, on nous parle d'Abraham et en particulier de sa foi. Et on nous rappelle que quand Dieu appela Abraham, il quitta son pays pour aller dans un pays où il ne savait pas où il irait. Et je pense que nous avons là une belle image du mariage. Bien sûr, je dirais le mariage a un cadre, il est une institution divine. Je rappelle le livre de la Genèse. Dieu créa l'homme à son image. Homme et femme, il les créa à son image. Il y a donc dans la famille, dans le couple humain, une image de ce qu'est Dieu en lui-même, de la Sainte Trinité. Dieu en lui-même est communion de personnes. Et il a voulu que la famille soit une image, un sacrement naturel, je dirais, de ce qu'est Dieu en lui-même. Voilà, donc là, il y a un cadre. Et c'est dans ce cadre que s'exerce la liberté des hommes et où chaque couple est une aventure nouvelle, en fonction du tempérament des uns des autres. Et c'est vrai que quand on se marie, eh bien, on ne sait pas où on va. C'est en avançant dans la foi que le Seigneur nous guide. Et puis il y a aussi dans le livre de la Genèse, cette grande souffrance d'Abraham d'être sans enfant, qui nous rappelle que chaque enfant est un don de Dieu. Ce n'est pas un dû. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Nous ne pouvons pas en faire ce que nous voulons. Je dirais, les parents sont un peu comme des jardiniers. Bien sûr, ils ont à arroser, ils ont à tailler, ils ont à biner, mais ils ne feront pas qu'une tulipe devienne une marguerite. Et donc, voilà, il y a ce rappeler que chaque enfant est un don de Dieu et a aidé à faire grandir dans ce que Dieu l'a fait. Et puis nous avons bien sûr toujours cette pensée aussi pour ces familles qui sont sans enfants. Grande souffrance, mais le don du mariage est quelque chose de tellement grand, de tellement beau, qu'il reste encore beaucoup de belles choses à vivre. Et je pense à plusieurs couples qui sont sans enfants et qui vivent à la fois dans une grande tendresse et aussi dans une belle fécondité qu'ils ont su donner à leur famille. Abraham eut foi. C'est dans la foi que les familles peuvent trouver leur force. Et Dieu vit qu'il était juste. Joseph, l'homme juste. La famille est vraiment une école de sainteté, aussi bien pour les parents que pour les enfants. Parce que un pécheur plus une pécheresse, ça ne fait pas une famille idéale, une famille sainte, comme ça, d'un seul coup. C'est un combat. Hein. Et les enfants savent bien aussi, s'ils ont des frères et sœurs, que, bah voilà, que ah, un égoïste plus une égoïste, eh ben, ça fait des disputes. Hein. Et donc, c'est tout un travail. Hein. La famille est une école de foi, une école d'espérance, une école de charité, une école de toutes les vertus hein, dont nous avons besoin pour que la vie soit belle. Et c'est en s'appuyant sur le Seigneur hein, que nous pouvons avancer. C'est grâce à la foi. Et puis, il y a cet événement, bien sûr, qui nous est rappelé aussi dans la vie d'Abraham, où Dieu lui demande d'offrir son fils Isaac. Événement mystérieux, mais qui nous rappelle que les enfants, que la famille, sont un grand don de Dieu, mais ne sont pas un absolu. L'absolu, c'est Dieu. Et je revois hein, ces familles où l'enfant est trop conçu comme un absolu. Hein. Mon amour, mon Dieu, vont-ils dire en parlant de leur enfant souvent unique. Hein. Et ce n'est pas une bonne façon d'élever les enfants. Hein. C'est un amour qui ne fait pas de bien. Hein. C'est quand nous avons l'étoile polaire, je dirais, de la foi de Dieu, hein, que nous pouvons exercer notre paternité, notre maternité, de façon responsable et belle. Je ne voudrais pas terminer sans rappeler que le fondateur des religieux de Saint-Vincent de Paul, le père Jean-Léon Le Prévôt, alors qu'il n'était pas encore religieux, hein, qu'il était seulement le président de la deuxième conférence Saint-Vincent de Paul de Paris, avait fondé l'œuvre de la Sainte Famille. Hein. Le dimanche après-midi, les confrères, en grande tenue, hein, recevaient les familles pauvres du quartier pour un temps de chant, un temps d'enseignement religieux, où ils étaient traités vraiment comme des rois, hein, « nos seigneurs les pauvres », disait saint Vincent de Paul. Et puis une petite loterie, hein, une façon de faire des cadeaux sans avoir trop l'air de faire la charité. Et puis quelques années après, notre congrégation religieuse ayant commencé à grandir, quand Monsieur Le Prévôt put réunir, j'allais dire, sa première maison d'œuvre, hein, boulevard du Montparnasse, où bien sûr, suivi l'œuvre de la Sainte Famille, mais aussi un asile de vieillards, peut-être la première maison de retraite de Paris, hein, dans les années 1860, et puis le patronage des enfants, le patronage des apprentis, hein, et la vie de la communauté, eh bien, il l'appela Notre-Dame de Nazareth, hein, en lien justement avec la Sainte Famille. Hein, et c'est nous qui sommes les héritiers aujourd'hui hein, de cette communauté, puisque voilà, nous avons été expulsés hein, en 1902, et c'est nous qui sommes aujourd'hui les héritiers de cette communauté de Notre-Dame de Nazareth, et les vitraux de notre église hein, nous rappellent justement la Sainte Famille. Alors confions-lui chacune de nos familles, confions-lui les familles qui tournent bien, confions-lui les familles cassées, et puis demandons aussi à Notre-Dame de Nazareth qu'elle aide nos dirigeants hein, à soutenir la famille parce que, eh bien, elle en a besoin et c'est important. Jésus, Marie et Joseph, ayez pitié de nous, priez pour nous.